Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la Russie au Moyen-Orient, avec ce constat d'un contexte de renouveau de l'influence russe sur la scène moyen-orientale dans la foulée des printemps arabes. L'occasion de faire le point sur les intérêts de Moscou entre volonté de contrer l'influence occidentale, de contenir la violence de l'extrémisme sunnite, de renverser la baisse des prix de l'énergie et d'accroître les exportations russes dans la région. Moscou se trouve aux prises avec des intérêts parfois contradictoires, tout en étant l'un des rares acteurs de la scène stratégique moyen-orientale à être en mesure de discuter avec tous les États de la région. État des lieux pour cette édition réalisée en partenariat avec l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient. Nos invités, Igor Delanoë, chercheur associé au Harvard Ukrainian Research Institute, ainsi qu'à l'Institut des études européennes et internationales de l'Université de Kadiras à Istanbul, actuellement enseignant d'histoire au Collège universitaire français de Saint-Pétersbourg. Bonjour.
Bonjour.
Et Julien Dossetti, chercheur au Centre Russie NEI de l'Institut français des relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Dans l'effervescence que connaît le Moyen-Orient, on a tendance en Europe à surtout évoquer la place occupée par Washington pour souligner le déclin de son intérêt pour la région, en raison notamment de l'indépendance énergétique récente des États-Unis et du recentrage sans doute de la politique américaine sur d'autres dossiers que les dossiers traditionnels. Je pense aux négociations sur le nucléaire iranien. La guerre en Syrie a également retenu toute l'attention au détriment probablement des autres pays. Moscou n'en a pas moins continué d'avancer des pions tout en commençant à prendre ses distances avec Damas. Que dire de l'évolution des intérêts géopolitiques de la Russie au Moyen-Orient? Quel a été l'impact des printemps arabes sur la politique moyen-orientale de la Russie? En quoi les printemps arabes ont modifié la perception de Moscou et les liens entre la Russie et les différents pays de la région? Comment finalement aussi Vladimir Poutine voit-il le Moyen-Orient aujourd'hui? Igor Delanoë.
Il y a eu très nettement un avant et un après printemps arabe. À mon sens, après 1991, après une brève période de mise en sommeil de la diplomatie russe sur le Moyen-Orient, vers la fin des années 90, deuxième moitié des années 90 en fait, on constate une réactivation des réseaux diplomatiques russes au Moyen-Orient à la faveur de l'arrivée de Evgeny Primakov au ministère russe des Affaires étrangères.
Qui est un grand spécialiste de la région.
Un grand spécialiste de la région, qui a travaillé pour la Pravda au Moyen-Orient dans les années 60, qui a dirigé les services de renseignement et qui est arabisant et le spécialiste, on peut dire, de la Russie au Moyen-Orient. À la faveur donc de son arrivée aux affaires, la Russie réactive ses réseaux diplomatiques au Moyen-Orient. Et dans un deuxième temps, on peut dire que l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, donc au tournant des années 2000, donne une seconde impulsion, une seconde renaissance en fait à l'influence russe au Moyen-Orient. Et à partir de là, à mon sens, les intérêts russes au Moyen-Orient sont de deux ordres. Premièrement, des intérêts économiques. Il s'agit de donner des opportunités de marché à l'industrie de défense russe, à l'industrie énergétique russe, par exemple.
Défense, énergie, les deux grands pôles.
Les deux grands vecteurs, on va dire, principaux de l'implication russe au Moyen-Orient. Et il y a également une série d'intérêts d'ordre sécuritaire liés directement au Caucase, à la stabilité du Caucase, qui guide la politique russe. Donc très schématiquement, voilà, sur les années 2000, on peut dire que ce sont les deux vecteurs qui guident la diplomatie russe au Moyen-Orient. Le printemps arabe donc intervient en 2011 et il reçoit une lecture, je dirais, sensiblement opposée en Russie, sensiblement opposée à celle que font les capitales occidentales, qui voient là un mouvement d'émancipation des populations arabes vers la démocratie. Pour la Russie, en fait, on parle plutôt de printemps islamique, c'est-à-dire que les Russes tout de suite interprètent cela comme plutôt l'émancipation de forces islamiques qui étaient jusque-là très contenues par les régimes autoritaires. Et à partir de ce moment-là, en fait, les intérêts sécuritaires russes prennent de plus en plus d'ampleur sur les intérêts économiques qui perdurent et qui sont réels, mais surtout à faveur de ce qui se passe en Syrie, à mon sens, les intérêts sécuritaires prennent de plus en plus d'importance.
Alors, intérêts sécuritaires, je me tourne vers vous, Julien Nocetti. L'idée étant, et la grande crainte pour Moscou, étant de voir ce qui se passe en Afrique du Nord et au Proche-Orient, avoir des conséquences directes sur son environnement proche.
Alors évidemment, bien sûr. Alors, Igor a tout à fait raison de relever la hantise des dirigeants russes sur la montée en puissance de l'islam politique au Moyen-Orient, et par extension au Caucase, et même en Russie. Et la lecture que font les dirigeants russes est celle d'une grande perméabilité en fait de ces idéologies islamistes en Russie. Et dans la décennie 2000, en fait, Moscou a été davantage victime d'attentats terroristes d'origine islamiste que Tel Aviv. Donc ça, c'est un paramètre que les dirigeants russes ont vraiment à l'esprit. Et actuellement, avec les avancées de l'État islamique au Moyen-Orient, il y a une très forte porosité de ce mouvement, de ces idéologies sur les républiques du Caucase Nord, qui sont elles-mêmes extrêmement, extrêmement fragiles. En raison d'un taux de chômage extrêmement important, de grande perméabilité à ces flux djihadistes. Et les réseaux historiques, en fait, djihadistes au Caucase sont eux-mêmes pénétrés par l'État islamique. L'émirat du Caucase, qui était jusqu'à présent l'un des mouvements phares au Caucase du Nord, a essuyé de nombreuses défections au profit de l'État islamique depuis environ 6-8 mois. Et certains de ses chefs ont rejoint aussi les rangs de l'État islamique. Et ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les Russes. En sachant qu'il y a de nombreux Tchétchènes qui sont aussi présents dans les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak. Et ça inquiète beaucoup Poutine et
Kremlin. On a une idée, Julien Nocetti, du nombre de Tchétchènes et autres ressortissants du Caucase partis faire la guerre dans les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak?
Alors, à l'automne dernier, l'État islamique avait diffusé une vidéo qui prétendait avoir intégré environ 2000 Tchétchènes dans ses rangs. C'est un chiffre évidemment très difficilement vérifiable. Mais il y a eu plusieurs estimations qui ont été rendues publiques par certains dirigeants russes, tout récemment via la presse ou en conférence, et qui chiffrent cette présence russe à environ 800 000 ressortissants russes présents sur place, auxquels il faut ajouter aussi beaucoup de ressortissants d'Asie centrale. On parle notamment d'environ 300 Tadjiks. Et tout récemment, il y a quelques semaines, on apprenait que le chef des renseignements Tadjiks avait fait défection pour rejoindre l'État islamique. Donc c'est aussi une tendance qui est à l'œuvre et qui inquiète beaucoup Moscou.
Alors pour en revenir à la question des printemps arabes qui ont été finalement un peu le déclencheur, Igor Delanoë, de ce regain d'intérêt de la Russie au prochain Moyen-Orient, un autre élément qui a vraiment marqué un tournant d'une certaine manière, c'est la question libyenne. Poutine, Moscou étant en désaccord total sur la façon dont les Occidentaux ont chassé et généré le chaos en Libye, en tout cas ce qui s'est avéré être un chaos par la suite.
Oui, tout à fait. En fait, quand la guerre civile éclate en Libye, à l'époque c'est M. Medvedev donc, qui est président de la Russie, Vladimir Poutine Premier ministre, et dans cette forme de diarchie, M. Medvedev est plutôt la voix ouverte entre guillemets à l'Occident, tandis que M. Poutine incarne une ligne beaucoup plus dure, beaucoup plus rigide. Et au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie en fait laisse la résolution être adoptée, la résolution qui permet donc l'intervention de l'OTAN, notamment franco-britannique, et soutenue logistiquement par les Américains en Libye. Intervention qui a conduit à au renversement de Muammar Kadhafi.
Même si Poutine avait vivement contesté, je me permets, la décision de Medvedev de pas s'opposer à cette résolution, et qui a donné lieu à des échange très très vif
entre le président et son
premier ministre. Voilà.
Donc un désaccord au sein du pouvoir russe sur la.
À cause de ces deux doubles têtes, si on veut.
Alors on ne sait pas si c'était un désaccord.
Une mise en scène ou quelque chose
ou théâtralisé. Donc ça, c'est aussi.
C'est un petit peu l'énigme. Mais enfin, au bout du compte, la Russie a considéré que l'OTAN avait outrepassé le mandat de l'ONU qui lui était confié, qui consistait en fait à créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye afin de protéger les populations civiles. Bon, sauf qu'on s'est aperçu que ça allait beaucoup plus loin avec le renversement de Muammar Kadhafi. Donc quelques mois plus tard, avec la crise qui éclate en Syrie et l'arrivée entre-temps de retour de Vladimir Poutine à la présidence de la Russie, la Russie a donc été vraiment très très intransigeante sur le dossier syrien et donc a systématiquement rejeté toute forme de résolution à l'ONU qui aurait éventuellement pu conduire une intervention armée en Syrie. Donc on peut dire que effectivement ça a été pour Moscou, dans la lecture que fait Moscou de l'interventionnisme euro-atlantique, ça a été un épisode de plus après la Yougoslavie, après le Kosovo, après encore, on va dire, l'Irak, d'une certaine manière, voilà. Un épisode de plus dans lequel l'interventionnisme occidental a lieu en Libye. Et la Russie s'est sentie quelque part un petit peu trahie sur ce plan-là.
C'est important qu'on passe quelques instants sur ce sentiment de trahison. Simplement pour rappeler aux nos auditeurs, et je demanderai peut-être de développer Julien Nocetti, finalement la psyché russe dans ces événements de ces dernières années, c'est que finalement, les deux soutiens importants de la Russie dans la région, la Libye et la Syrie, ont été mis à mal par les printemps arabes. Et Moscou y a vu une main étrangère, en tout cas de l'Occident, contre ses propres intérêts régionaux, Julien Nocetti.
Alors, une petite précision, la Libye n'était pas un allié majeur de la Russie dans la région. Hein. C'est un régime qui était plutôt instable et dont les alliances étaient plutôt mouvantes. Mais c'est certain que les Russes avaient des intérêts économiques très forts en Libye et ils les ont perdus à la faveur du renversement de Kadhafi. Mais il est clair que les dirigeants russes ont vu les interventions occidentales à l'égard de ces deux régimes comme une menace très forte en fait. Et ce qui est très présent dans le discours russe, c'est leur attachement en fait à un corpus doctrinal qui revient sans arrêt en fait. Hein. Donc Igor a mentionné le Kosovo, l'Irak, etc. Mmh. Donc c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, c'est l'attachement au principe de souveraineté territoriale et politique. Et ça, la Syrie a vraiment constitué une ligne rouge à pas dépasser. D'autant que là aussi, les intérêts économiques russes étaient très très présents.
Vous écoutez RFI Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors la question de la souveraineté territoriale me fait partir sur une autre piste, c'est la crise ukrainienne. Igor Delanoë, est-ce qu'elle est aussi, cette crise ukrainienne, une raison supplémentaire finalement pour l'intensification de la politique russe au prochain Moyen-Orient ?
À mon sens, oui, parce qu'on peut dire que d'une manière générale, depuis 1991, la Russie, en cherchant à reconstituer son influence au Moyen-Orient, à réactiver ses réseaux, à défendre ses intérêts, cherchait également à acquérir une série de leviers ou de cartes qu'elle pourrait utiliser le moment venu dans ses rapports de force, principalement avec la communauté euro-atlantique, on peut dire, donc relatif à des enjeux de sécurité dans ce qu'on appelle son étranger proche, donc pour faire rapidement l'espace post-soviétique, avec des zones très critiques comme l'Ukraine et le Caucase notamment. Et donc l'acquisition de cartes, de leviers d'influence sur la scène moyen-orientale servait à monnayer, de monnaie d'échange dans ses rapports de force. Donc on peut relier en ce sens les théâtres moyen-orientaux avec la crise ukrainienne. Et juste pour revenir sur la Libye, effectivement, les intérêts russes en Libye, au moment où Muammar Kadhafi est renversée. On sait qu'il y avait des contrats d'armement de l'ordre de 5 milliards de dollars environ qui étaient passés, plus quelques intérêts d'ordre énergétique qui auraient pu encore venir accroître les intérêts russes, donc qui ont été complètement balayés par l'intervention britannico-américaine, française on peut dire, et également 20 milliards d'investissements chinois qui ont également sont partis en fumée à la faveur du renversement de Muammar Kadhafi. Bon, en Syrie, on sait que les intérêts russes fin des années 2010 sont de l'ordre environ d'une vingtaine de milliards de dollars, et sur les intérêts chinois je n'ai pas d'éléments, mais donc là aussi il fallait dire stop à le contournement des intérêts russes et effectivement ce qu'a rappelé Genosetti, un contournement du droit international, ingérence dans les affaires des États souverains et voilà.
On détaillera après ça les relations entre Moscou, Israël, Moscou, l'Arabie Saoudite, la question iranienne bien sûr aussi. Quelques mots sur les aspects religieux et la Russie qui se positionne aujourd'hui comme le grand défenseur des chrétiens d'Orient.
C'est un rôle qu'elle avait déjà au XIXe siècle, en concurrence avec la France à l'époque. Et le parallèle avec la situation actuelle est assez frappant en fait. Les Russes, en quelque sorte, font un pied de nez aux Français qui, selon eux, auraient lâché ces chrétiens d'Orient, le rôle de protecteur des chrétiens d'Orient. Et aujourd'hui, ce volet religieux est assez présent dans la diplomatie russe. Et il faut savoir que le rôle du patriarche de Moscou, donc Cyril, est assez important dans ces démarches, ainsi que le rôle du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, qui essaie de déployer une politique d'influence dans la région. Et il faut savoir qu'au Moyen-Orient, les chrétiens d'Orient dépendent pour certains d'un patriarcat dont la hiérarchie est grecque. Et il y a une vraie politique d'influence en fait du patriarcat de Moscou dans la région pour essayer d'avoir davantage de poids face à cette hiérarchie grecque. Et donc le but est d'utiliser le clergé moscovite à ses fins. Et c'est aussi assez intéressant de relever toute l'initiative en fait des religieux russes dans la région depuis une dizaine d'années à peu près, puisque la Russie a d'une part fait revivre ce qu'on appelle le SIOP, la société orthodoxie palestinienne, qui a été créée il y a un peu plus d'un siècle. C'est une structure qui est dirigée par un ancien proche de Poutine, c'était Pachin, qui a lui été aussi premier ministre pendant quelques mois en 98, et qui a lancé plusieurs actions en fait dans des villes palestiniennes pour essayer de refaire revivre en fait cette influence orthodoxe russe, et dans des villes qui ont une très forte portée symbolique comme Jéricho, Nazareth, Bethléem, et notamment les capitaux russes financent la reconstruction de l'église de la Nativité. Donc ça c'est aussi symbolique, mais aussi très fort de cette volonté russe de reprendre pied sur un terrain religieux qui a été abandonné par les grandes puissances occidentales.
Igor Delanoë.
Oui, tout à fait. Si je peux donc un petit peu rebondir sur ce qui a été dit. À mon sens, le vecteur religieux déployé par la diplomatie russe résonne particulièrement vivement sur la scène moyen-orientale à plusieurs titres. Tout d'abord, comme l'a rappelé Giuliano Citti, il y a des facteurs d'ordre historique. C'est-à-dire que la Russie, depuis 1774, donc lorsqu'elle a remporté une énième guerre contre l'Empire ottoman, a été proclamée comme la protectrice officielle des chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman. Il y avait un privilège assez similaire, mais pour les autres centre chrétien d'Orient qui était réservé avant à François Ier. Donc on imagine là, on voit la profondeur historique en fait, si vous voulez, du phénomène. Deuxièmement, il y a la question évidemment des minorités chrétiennes actuellement que la Russie estime être lâchée par l'Union européenne,
par l'Occident,
par l'Occident, voilà, qui renierait donc ses valeurs, si on écoute le discours, hein, qui est tenu au plus haut niveau de l'État, hein, donc aussi bien Monsieur Poutine que Monsieur Lavrov qui le rappelle occasionnellement. Et troisième élément, il y a un autre vecteur qui est déployé à mon sens par la diplomatie russe, qui est celui de la carte de l'islam russe en fait, la carte islamique russe, puisqu'on sait que la Russie est un pays multiethnique, multiconfessionnel, qui abriterait donc sur une population de 147 millions d'habitants entre 16 et 20 millions de musulmans, hein, suivant les chiffres, peut-être même 22 millions, hein, à 98% qui sont sunnites. Et par conséquent, elle déploie aussi une diplomatie à travers ce vecteur-là, puisqu'elle mobilise notamment la région du Tatarstan, qui est une région musulmane, hein, principalement de Russie, qui est impliquée dans un certain nombre d'opérations diplomatico-économiques au Moyen-Orient, dans le Golfe notamment, pour conclure des contrats, même à travers la Tchétchénie, puisque c'est Monsieur Kadyrov qui, par exemple, a négocié l'augmentation du nombre de pèlerins russes qui peuvent faire le Hajj à la Mecque, et qui se rend régulièrement lui-même donc dans le Golfe pour rencontrer les pétromonarques du Golfe.
D'ailleurs, je rebondis sur ce propos d'Igor, en fait. Il y a un vrai facteur tchétchène, en fait, de la diplomatie russe au Moyen-Orient. Ouais. Et Kadyrov lui-même a su tisser des relations personnelles avec plusieurs souverains du Moyen-Orient, dont le roi de Jordanie, Abdallah II, à qui il a rendu visite deux fois au cours de l'année écoulée. Mm-hmm. Donc ça, c'est aussi un vrai facteur. Et moi, j'aime parler de dédoublement de la diplomatie russe dans la région, à la faveur de cette composante caucasienne, et dont les réseaux se situent le plus souvent dans le Golfe, aux Émirats Arabes Unis, où il y a des investissements très substantiels de la part de ces républiques dans ces monarchies du Golfe. Mmh. Et l'un des buts en fait de Kadyrov, donc le président tchétchène, est de nouer des relations, des coopérations sécuritaires dans le but justement de juguler la menace islamiste. Et ça, c'est une tendance assez forte en fait. Vous avez en Russie Kadyrov qui cherche à obtenir un vrai statut d'homme politique fédéral, de niveau fédéral, ce qui est généralement dévolu au seul président, voire premier ministre. Mmh. Et Kadyrov essaye d'avoir une influence beaucoup plus forte sur cette prise de décision politique, d'où son activisme diplomatique et ses réactions aussi très fréquentes vis-à-vis d'événements internationaux. Mmh. Et je fais notamment référence à certaines attaques de l'État islamique l'année dernière, à la proclamation du califat par al-Baghdadi l'année dernière, et Kadyrov a réagi extrêmement vivement, hein, via les réseaux sociaux à ces événements.
Kadyrov, le président tchétchène. Alors, quand vous parlez de dédoublement, la question qui me vient pour terminer cette première partie d'émission, c'est dédoublement, partage des rôles. Je veux dire, Kadyrov agit comme il agit, sous contrôle de Moscou, sous contrôle de Poutine, ou de façon tout à fait autonome. Comment cela se passe entre les deux capitales, entre Grozny et Moscou, sur cette question, Julien Dossetti?
Il y a évidemment une forme de loyauté, je dirais, tchétchène vis-à-vis de Poutine, puisque c'est lui-même qui l'a installé au pouvoir à la mort de son père en 2004, si ma mémoire est bonne. Après, notamment si on se réfère aux événements post-Charlie en janvier 2015, il faut se souvenir qu'il y a des manifestations monstrueuses en fait, à Grozny, la capitale tchétchène, qui auraient rassemblé officiellement environ 800 000 personnes sur une population tchétchène d'1 200 000 habitants. Donc c'est à la fois conséquent et aussi très orchestré. Donc c'est aussi un paramètre à avoir à l'esprit. Il y a une forme aussi de une volonté de Kadyrov de d'avoir davantage à la fois d'influence mais aussi d'indépendance par rapport à un pouvoir qu'il peut-être juge trop présent.
Si je peux juste rajouter un mot. Donc effectivement, il me semble qu'on assiste depuis quelques ans qu'il y a quand même une sorte de retour de flamme de ce vecteur tchétchène en Russie, mais un retour de flamme en matière de politique intérieure russe. Il semblerait que le dauphin, en quelque sorte, le fils spirituel en forme de Poutine dans le Caucase, Kadyrov prenne un peu trop sa liberté, pour acquise. Et en termes de politique intérieure, ça s'est notamment répercuté avec des tensions très très vives entre la Tchétchénie et le Daghestan récemment. Il y a eu des accrochages très violents, et notamment M. Kadyrov qui a simplement déclaré qu'il n'hésiterait pas à employer la force pour intervenir au Daghestan si ce type d'accrochage continuait. Donc ça peut poser quelques problèmes.
Géopolitique, regard sur la politique de la Russie au Moyen-Orient. Nous retrouvons nos invités, Igor Delanoë et Julien Dossetti, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'influence russe sur la scène moyenne-orientale. Nous retrouvons nos invités, Igor Delanoë, chercheur associé au Harvard Ukrainian Research Institute, ainsi qu'à l'Institut des études européennes et internationales de l'Université de Kadiras à Istanbul, et actuellement enseignant d'histoire au Collège universitaire français de Saint-Pétersbourg, et Julien De Sietti, chercheur au Centre Russie-NEI de l'Institut français des relations internationales. Nous avons détaillé dans la première partie de l'émission les intérêts de Moscou au Proche et Moyen-Orient, on l'a dit, entre volonté de contrer l'influence occidentale, de contenir la violence de l'extrémisme sunnite, de renverser la baisse des prix de l'énergie et d'accroître les exportations russes dans la région. Igor Delanoë, je me tourne vers vous. Vous venez de publier un article publié par l'IFRI qui s'intitule « Les Kurdes, un relais d'influence russe au Moyen-Orient ». Point d'interrogation. C'est une affirmation malgré tout. Enfin, je veux dire, vous posez la question, vous y répondez. Le soutien des Kurdes par Moscou.
Alors moi, je dirais que le soutien des Kurdes par Moscou aujourd'hui est un soutien nuancé, discret, mais qui est quand même réel et qui, en tout cas, prend une forme différente de celui qui est apporté aujourd'hui par notamment les Français, les Allemands, les Américains, qui, par exemple en Irak, livrent des armements aux Kurdes afin qu'ils puissent se battre contre l'État islamique. On peut dire que aussi bien russes que occidentaux, pour parler rapidement, considèrent les Kurdes comme une force qui est de moins en moins supplétive dans la lutte contre l'État islamique, mais comme une force essentielle et qu'il faut appuyer. Alors, les Russes ne leur livrent pas d'armement, mais en revanche, notamment en Syrie, ils appuient leur position et leur présence dans les pourparlers pour tenter de résoudre politiquement et pacifiquement la crise syrienne.
C'est un soutien, le soutien russe vis-à-vis des Kurdes, qui est un soutien ancien, qui existait déjà sous l'URSS.
Et même avant, en fait, sous l'Empire russe. Alors, il y avait des Kurdes dans l'Empire russe, donc, qui se sont retrouvés ensuite dans l'Union soviétique. Donc l'histoire entre la Russie et les Kurdes date d'un certain temps. Sous la période soviétique, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, en effet, Moscou apporte son soutien notamment aux Kurdes iraniens, que l'Union soviétique aide à constituer une très très brève république kurde dans le nord de l'Iran, qui finit très très mal, puisque les Iraniens l'écrasent, et les Kurdes se réfugient ensuite en Union soviétique. Et quelques années plus tard, ces mêmes Kurdes partent cette fois-ci en Irak pour tenter une nouvelle fois de construire un État. Et alors la Russie leur apporte un soutien effectivement idéologique, parce qu'il y a des sensibilités marxistes assez prononcées notamment, mais en même temps la Russie est très très amie avec Saddam Hussein, avec Hafez el-Assad, et par conséquent il faut toujours être très très prudent vis-à-vis de son soutien. Donc effectivement, oui, c'est un soutien qui date de longue date.
Alors, quand je parlais d'intérêts contradictoires, et je me tourne vers vous, Julien Nassetti, ce soutien aux Kurdes, ou en tout cas les Kurdes comme relais d'influence russe au Moyen-Orient, évidemment, ça n'est pas sans conséquence sur la relation que peut avoir Moscou avec Ankara, donc les Turcs, et ce sera intéressant d'aller plus loin et de développer un tout petit peu, de faire un état des lieux des relations entre, déjà la Russie et la Turquie pour commencer, la Russie et Israël, la Russie et l'Arabie Saoudite. En ce qui concerne la Turquie,
Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Évidemment, le soutien de Moscou aux Kurdes, qui a varié selon les époques, plaît pas du tout Ankara. Il faut savoir que la relation actuelle entre la Russie et la Turquie est excellente d'un point de vue économique. Les échanges sont substantiels et ça croît d'année en année. Il y a notamment une interdépendance énergétique qui est très forte. Mais sur le plan politique, il y a parfois quelques anicroches, et les Russes reprochent, notamment depuis les printemps arabes, un soutien plus ou moins ouvert, plus ou moins voilé en fait, de la Turquie vis-à-vis de groupes islamistes, notamment de frères musulmans, dans la région, au Caucase, en Syrie également. Et ça, c'est un élément qui a pu jouer en défaveur d'un rapprochement davantage, un peu plus étroit entre Moscou et Ankara. Il y a aussi en contrepoint la relation à Israël, évidemment, sur laquelle on a beaucoup travaillé à l'IFRI. Et ça, c'est aussi une relation qui est aussi très contradictoire, puisque là, vous avez aussi des flux humains très très conséquents entre les deux pays. Vous avez actuellement environ le cinquième de la population israélienne qui est d'origine ex-soviétique.
Là, on se place pour un retour en arrière, les années 90, après l'effondrement du mur de Berlin. Beaucoup de russophones
ont émigré en Israël, tout à fait. Et ce qui a pu constituer une forme de pont humain, en fait, entre les deux pays. Des échanges économiques aussi très, très substantiels, des coopérations dans des secteurs technologiques très poussés. Le secteur des drones, notamment, quand on sait que la Russie a acheté les années précédentes des drones à Israël et que ces drones se sont avérés décisifs, notamment dans les opérations dans le Donbass, dans l'Est ukrainien. On mesure l'importance de cette coopération entre Israéliens et Russes. Certaines aussi composantes des forces spéciales israéliennes sont composées de russophones, en fait, hein, de ressortissants de pays ex-soviétiques. Il y a aussi la question des échanges, si vous voulez, de pratiques militaires, de doctrines qui s'est aussi fait entre les deux pays. Mais en même temps, sur un plan diplomatique, notamment régional, il y a la diplomatie russe et israélienne ont connu beaucoup de tensions, notamment sur la Syrie et sur l'Iran. Et il y a une forme de chantage au missile S-300 ou S-400 entre Russes et Israéliens, puisqu'à chaque fois que la Russie a cherché à livrer ses missiles antiaériens à Damas ou à Téhéran, Israël a effectué de nombreuses pressions sur Moscou pour pas que la Russie livre ses missiles. Et ça a donné lieu à beaucoup de tensions entre les deux capitales. Donc ça, c'est aussi notable.
Alors, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que effectivement, la Russie fait partie du quartet avec les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies de recherche d'une paix possible entre Israéliens et Palestiniens. Je me tourne vers vous, Igor de Lannoy. On sent quand même une politique tous azimuts de la Russie dans la région. Parfois, ce qu'on pourrait qualifier de grand écart entre quand on voit la politique de soutien à Israël, mais jusqu'à un certain point, on est en permanence sur un fil, c'est de l'équilibrisme finalement que fait Moscou, et jusqu'à présent il n'y a pas eu de couac majeur.
En fait voilà, comme vous le dites très bien, c'est une forme d'équilibrisme, parce qu'à force de parler avec tout le monde, ce qui est bien en soi, on en arrive parfois à tomber dans certaines formes de contradictions. Juste pour revenir sur la Turquie, comme je viens de le rappeler, des échanges économiques florissants qui contribuent à la densité de la relation russo-turque. Récemment, la Russie et la Turquie ont signé un accord pour que la Russie construise la première centrale nucléaire en Turquie. Donc c'est plus seulement le gaz, c'est désormais le nucléaire aussi. Et les deux pays partagent également une vive frustration vis-à-vis des États-Unis, et ce qui contribue un peu plus également à les rapprocher. Et ils ont une très forte capacité, et ça rejoindrait également ce qui se passe avec les Israéliens, à pouvoir compartimenter leurs relations. C'est-à-dire, il y a des choses qui marchent pas. La Syrie notamment, évidemment. Dans le Caucase aussi, puisqu'ils appuient chacun autour de la question du Haut-Karabakh des parties opposées. Donc les Turcs appuient la partie azérie et les Russes la partie arménienne. Mais en même temps, chacun des deux n'a pas intérêt à ce que ça explose. Et donc des éléments de convergence qu'on a rappelés qui sont au contraire des intérêts économiques et on va dire une relation compliquée avec les États-Unis. Sur Israël, également des éléments de convergence qui ont été relevés par Julian Ossetti, des éléments d'ordre économique, un facteur humain très 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 présent. Et des éléments de divergence qui sont, eh bien, effectivement, l'activité de chacun des deux dans son proche étranger respectif. Si vous voulez, les activités israéliennes dans le Caucase, notamment jusqu'en Géorgie, jusqu'à la guerre de Géorgie, étaient assez mal vues à Moscou, puisqu'Israël a livré des armements assez substantiels à la Géorgie avant la guerre. Et, à l'inverse, évidemment, l'activité de livraison d'armements russes dans le Moyen-Orient, on pense à la Syrie, on pense à l'Iran, qui pose de sérieux problèmes. Donc, effectivement, on a des contradictions, parce qu'il y a des intérêts d'ordre économique très concret pour la Russie, notamment sur l'armement, qui se heurte à des intérêts d'ordre plutôt stratégique ou politique. On a cité le processus de paix, il faut aussi résoudre la question iranienne, et évidemment parfois, on peut être se prendre un peu les pieds dans le tapis du point de vue diplomatique.
Alors, la question iranienne et la question saoudienne pour la Russie, Julian Ossetti, la baisse des prix du pétrole, catastrophe.
Alors c'est l'un des enjeux majeurs en fait de la diplomatie russe, notamment au Moyen-Orient. Il y a une relation extrêmement complexe avec l'Arabie Saoudite, relation qui est historiquement exécrable. Et ça, les dirigeants russes se souviennent très bien du rôle qu'a joué l'Arabie Saoudite dans les années 80, dans la chute des cours du pétrole, qui a précipité la chute elle-même de l'Union soviétique, avec le soutien américain.
Et là, ça continue.
Et ça continue. Alors c'est vrai qu'il y a à Moscou, c'est interprété comme une volonté de à la fois d'empêcher la Russie d'exporter davantage de pétrole, évidemment, et de gagner en devises. Mais il y a aussi en ligne de mire des Saoudiens la volonté de contrer l'indépendance énergétique dont jouissent les Américains grâce à l'exportation de pétrole et gaz de schiste. Donc ça, c'est aussi très très notable chez les Saoudiens. Pour en venir à la diplomatie russe avec les Saoudiens, ce qui est aussi frappant, c'est que à chaque fois depuis une décennie que les relations se sont tendues entre Saoudiens et Américains, donc notamment après la guerre en Irak en 2003, à laquelle les Saoudiens étaient très opposés, au moment de la crise financière aussi en 2009, à ces deux moments, les relations entre Moscou et Riyad se sont rapprochées. Voilà, sur une base évidemment d'intérêt tactique, puisqu'en fait à Riyad, l'appétence n'est pas tant du côté de Moscou que du côté de Washington. Il y a une forme de chantage, si vous voulez, de la part de Riyad à montrer qu'on se tourne vers Moscou pour obtenir davantage de Washington, à la fois sur des dossiers régionaux, sur l'énergie, sur le dossier israélo-palestinien, etc. Voilà. Donc là, c'est un jeu subtil, en fait, entre trois pays. États-Unis, Arabie Saoudite et Russie.
Et pour aller plus loin, dans la relation avec l'Arabie Saoudite, évidemment, le contrepoids, l'Iran, Igor Delanoë, où en est Moscou sur la question iranienne, les négociations sur le nucléaire?
Pour juste compléter ce qui a été effectivement dit par Julien, effectivement, Ariane se tourne vers Moscou pour faire du contrepoids, mais pour l'instant, concrètement, on n'a pas abouti à des signatures de contrats substantiels. La centrale nucléaire, visiblement, c'est les Français qui vont les construire, ça a été signé ces dernières heures. Les Saoudiens font comprendre qu'ils ont envie d'acheter des missiles tactiques Iskander, mais ça dure depuis bientôt 10 ans, toujours pas signé. Ça avance, mais concrètement, on débouche sur rien. Je vais répondre à votre question en faisant le lien avec les chutes du prix du pétrole, puisque si pour les Américains, la chute des cours contribuait à un peu plus mettre la pression sur l'économie russe, pour les Saoudiens, en revanche, moi je pense que l'objectif était de mettre encore plus de pression sur l'Iran, puisque quand les cours commencent à s'effondrer, on est en décembre 2014, on est dans le pré-contexte des négociations sur l'accord cadre qui aboutit donc au printemps, et il s'agit de mettre un levier de pression supplémentaire sur l'Iran. Alors, la place de la Russie dans la résolution, l'acheminement vers une résolution du dossier nucléaire iranien, elle est essentielle. À peu près toutes les chancelleries occidentales américaines s'accordent à dire que la contribution russe a été essentielle en fait à l'aboutissement de cet accord cadre, qui est une diplomatie proactive de la Russie sur le dossier. Mais en même temps, la Russie cherche à avancer ses pions, puisque si il y a un accord est conclu entre les Occidentaux, on va dire, et l'Iran, et qu'il y a donc une levée des sanctions, ça ne fait pas les affaires de Moscou, point de vue économique et stratégique. Donc les pions avancés par Moscou récemment, c'est la signature en décembre d'un accord cadre avec l'Iran pour construire une nouvelle centrale nucléaire civile, et la levée de l'embargo sur les S-300. Pour l'instant, on n'a pas de livraison prévue, mais il y a une levée d'embargo sur les S-300.
Levée de l'embargo, c'est un projet de toute façon, cette question de livraison qui est antérieure à la période actuelle. Et,
En fait, il y a quelques années, durant la parenthèse MEDEF, Moscou avait annulé la livraison de missiles S-300 à l'Iran, ce qui avait à l'époque suscité une grande colère à Téhéran. Et d'ailleurs, le régime iranien réclame toujours, je crois que c'est environ 4 milliards de dollars de dédommagement à la partie russe. Donc on verra si cette levée d'interdiction aura une influence sur ce débouché. Moi, en fait, je vois avec cette Toukas signé par Poutine après l'accord de Lausanne, un message en fait de la part de Moscou qui est de dire que si les négociations échouent à la fin du mois, la Russie ne soutiendra pas de nouvelles sanctions contre l'Iran. Il y a aussi un jeu diplomatique assez subtil de la part de la Russie, et c'est aussi une manière pour Moscou de souligner, à travers la gestion du dossier nucléaire iranien, une forme de diplomatie émotionnelle dont les Occidentaux seraient coutumiers en fait vis-à-vis de l'Iran notamment. Donc là, c'est une critique à peine voilée à l'égard des Français, des Britanniques, des Américains notamment. Et il y a aussi une visée interne dans ce jeu iranien, puisque le but est de délivrer aussi un message à l'industrie de défense russe, qui a amplement pâti de la crise économique en Russie et qui a besoin d'être rassurée aussi sur les capacités d'exportation et trouver de nouveaux débouchés, malgré un contexte régional qui est quand même extrêmement tendu.
Alors la question, après ça, ce sera intéressant de savoir peut-être en conclusion de l'émission si finalement les intérêts qui sont tellement multiples et l'éventail est tellement large, les intérêts de la Russie dans la région, est-ce que ces pions posés un petit peu partout font avancer les intérêts russes dans la région, ou c'est plutôt une étape intermédiaire de préparation de l'avenir? Je voudrais juste qu'on dise quelques mots avant cela sur la Chine. Igor Delanoë, Russes et Chinois ont engagé des exercices conjoints en Méditerranée récemment. Évidemment, le degré de coopération ne doit pas cacher la très forte divergence d'intérêts entre Moscou et Pékin dans la région.
Alors, sur ces exercices navals, effectivement, il faut déjà souligner que ce sont les premiers exercices du genre tenus par ces deux pays dans cette région. Chinois et Russes ont l'habitude de mener des exercices navals en Extrême-Orient, sur une base annuelle. À mon sens, pour Pékin, il s'agit de montrer que sa marine, déjà, a la capacité, évidemment, d'aller mener des opérations, des exercices et des manœuvres dans un théâtre maritime aussi éloigné que celui de la Méditerranée. Et moi, je le relierai à la stratégie de Pékin de nouvelles routes de la soie, qui traverse donc toute l'Asie centrale, avec une route terrestre, ferroviaire, voilà, qui aboutit donc à la mer Noire, et donc à la Méditerranée. Et il s'agit donc pour Pékin de démontrer qu'on a la capacité, en cas de crise, de pouvoir projeter une marine de guerre à l'autre bout du débouché pour protéger ses intérêts économiques. L'autre chose, c'est qu'effectivement, il y a ces intérêts économiques chinois que j'ai évoqués dans la première partie de votre émission, en Libye et en Syrie, et que par conséquent, la Chine tient également quand même à protéger ses intérêts en cas d'une hypothétique intervention qui viendrait pas nécessairement des Occidentaux, mais pourquoi pas des Turcs en Syrie, par exemple.
Sur la question de l'avancée ou non des intérêts de la Russie au prochain Moyen-Orient, Julien Nocetti, ça avance pour Moscou, ou voilà, ce que je disais, c'est tellement multiple que
ça
c'est
avance,
aussi
oui,
contradictoire,
en fait,
et que
ça avance sur une base bilatérale. Moscou manque en quelque sorte de profondeur stratégique dans la région et conduit une politique vraiment au cas par cas. Elle parle à tout le monde, ce qui est une forme d'avantage comparatif également. Mmh. Hein. Mais la démarche de Moscou est avant tout pragmatique. Voilà, il s'agit de contrairement à l'Union soviétique, de vendre ses produits.
Oui, vous parlez des armes essentiellement.
Essentiellement. Armes, produits agricoles, énergie également. Mais c'est une politique qui fonctionne avant tout sur une base d'État à État. Voilà, effectivement. On n'a pas évoqué le cas d'Égypte et c'est pourtant un des pays clés de la région. En février, Poutine s'est rendu au Caire. Il a été reçu de façon fastueuse. Il y a quelques accords cadres qui ont été signés en matière de sécurité, en matière de livraison d'armement. Les deux capitales discutent de la livraison de 46 MiG-29, donc d'avions de chasse. Donc, ce qui est un nombre plutôt substantiel. Il y a des exercices navals qui ont été conduits au mois de juin, en Méditerranée, entre Russes et Égyptiens. Les deux pays ont une vision convergente sur ce qu'il faut faire et pas faire en Libye, voisine de l'Égypte. Donc c'est ça participe aussi d'une convergence de vues qui va en s'accroissant. Et quand on sait que le Caire est en froid avec Washington actuellement, depuis la chute du régime Morsi, qui avait été soutenu de façon appuyée par Washington, on mesure que la Russie effectue une forme de retour en fait dans ce pays 40 ans après son retrait.
Alors pour conclure cette émission et essayer de rassembler les idées, si tant est qu'on puisse le faire, parce que effectivement les dossiers sont absolument multiples. Est-ce que l'on pourrait d'une certaine manière résumer la politique, la stratégie de Moscou au Proche et Moyen-Orient comme une volonté de désaméricaniser les relations internationales ou en tout cas de les désoccidentaliser, Igor Delanoë?
Moi je dirais en tout cas de contester effectivement l'hégémonie de l'ordre international, enfin l'ordre international qui serait sous contrôle de la communauté euro-atlantique. Donc là, c'est un des théâtres du globe où la Russie a des capacités pour pouvoir contester cette hégémonie. À mon sens, sur le Moyen-Orient, on parlait de stratégie russe. Pour moi, l'activité russe au Moyen-Orient reste quand même très dépendante et très arrimée à la fois à la relation que la Russie entretient avec les Occidentaux d'une part et au contexte sécuritaire dans le proche étranger qui est la priorité absolue pour Moscou. C'est-à-dire que ce qui compte d'abord en termes de matière de politique étrangère, c'est le proche étranger. Ensuite, on a le Moyen-Orient, d'une part. D'autre part, désormais, il faut pas oublier de raisonner en termes d'union économique eurasiatique, hein, cet projet géopolitique de Vladimir Poutine. Vous avez trois pays actuellement qui négocient la création d'une zone de libre-échange avec l'union économique eurasiatique, qui sont l'Inde, l'Égypte et Israël. Sur les trois, il y en a deux qui sont au Moyen-Orient. Donc là, on est encore sur une dynamique d'intérêt économique, mais cette fois-ci dans une perspective de régionalisation, si vous voulez, avec cette union économique eurasiatique.
Pour rebondir, et ce sera la dernière idée, Julien Nocetti, protéger le proche étranger pour la Russie, on a compris que c'était une priorité. Et quand on parle de cela, on parle aussi de priorité absolue pour Moscou, qui est d'éviter le chaos au Proche-Orient.
Alors absolument, ça c'est vraiment un fil rouge de la diplomatie russe. Par contre, il faut à mon sens distinguer le verbe à l'action. Le verbe, c'est effectivement créer une contre-doxage géopolitique. Poutine incarnerait là une forme de désoccidentalisation du monde. Et l'action, c'est à l'inverse, éviter de porter le fardeau laissé par les Américains dans la région. Et ça, les Russes n'ont absolument pas envie de supporter le poids du chaos, pour le coup, créé par les Américains en Irak, en Syrie également, en prolongement.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Igor Delanoë, chercheur associé au Harvard Ukrainian Research Institute, ainsi qu'à l'Institut des études européennes et internationales de l'Université de Kadiras à Istanbul, actuellement enseignant d'histoire au Collège universitaire français de Saint-Pétersbourg, et Julien Nocetti, chercheur au Centre Russie-NEI de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Je signale également la sortie du numéro d'été de la revue Politique étrangère et son dossier sur la Russie, sous le titre « La Russie, une puissance faible ?», point d'interrogation, une publication donc de l'IFRI. Vous pouvez retrouver Géopolitique sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook. Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée aux relations entre la Corée, la Chine et le Japon, à quelques semaines du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation de Tokyo après les bombardements atomiques de Nagasaki et Hiroshima. À demain.